RFI, Radio France International.
Bonjour Caroline Bourgeois. Pour cette exposition, la première idée qui m'arrive est de vous poser une question. Comment faire pour faire une bonne exposition solo de cet artiste Luc Tumans?
D'abord, on a travaillé ensemble depuis le début, vraiment main dans la main, Luc et moi, avec comme première décision, et puis c'est un artiste qui a quand même plus de 60 ans aujourd'hui, qui a une vraie carrière derrière lui, qui a réalisé à peu près 650-700 tableaux jusqu'à présent. Il produit moins que beaucoup d'autres, mais il y avait la matière pour arriver à faire une exposition monographique au Palazzo Grazzi. L'autre chose, c'est que le Palazzo Grazzi est fantastique pour la peinture, parce que ses effets de lumière révèlent les tableaux, et même si ça fait 2 ans qu'on travaille, qu'on connaissait chaque tableau dans l'exposition, quand on a mis les œuvres sur les murs, ça a été une espèce de grand choc. Donc, la première décision tout à fait claire depuis le départ, c'était de ne présenter que des tableaux, qu'il ne s'agissait pas de faire rétrospective, mais de partir avec en tête plutôt tous les derniers travaux et de faire des discussions entre chacun des tableaux, avec des tableaux seuls dans certaines salles et en discussion dans d'autres salles. Et la particularité du Palazzo Grassi fait qu'on doit avoir des rythmes très très particuliers, donc on a aussi tenu compte de cette musique du parcours qui fait que, j'espère pour le public, on a certaines surprises à chaque selon les quand on parcourt les différentes salles. Et puis on a donc inclus dans le catalogue le premier projet d'exposition, et vous verrez de la dernière page, c'est le presque dernier projet, parce qu'on a juste inversé 2 salles, mais on n'a pas changé le choix des discussions entre les tableaux. Donc c'est là que c'est parti, en accentuant le côté engagé, mais dans un rapport au temps du travail de Luc, en ne mettant pas les travaux qui ont été plus immédiatement politiques, comme ce qu'il avait présenté sur le colonialisme au pavillon vénitien à la Biennale de Venise, où les tableaux, il montre des gens, il fait des portraits comme quand on dessine à Arras. C'est quelque chose qui est plus indirect et qui vous donne des éléments de distance critique, puisque l'ensemble de son travail s'adresse aux mots humains et aux que ce soit de groupe, enfin ou social, hein, ou que ce soit individuel, puisqu'il y a même 2 tableaux. Les choses reviennent. On fait des échos aussi dans le parcours sur Issei Sagawa, donc ce japonais cannibale qui vit en liberté, enfin qui est toujours vivant et pas du tout dans une prison actuellement au Japon.
En fait, vous parlez ce rythme et la beauté de rythme qui pourrait être répétitif et en continu, et aussi cette surprise entre les tableaux et la dimension. Et pour moi, quand je regarde très rapidement ces œuvres, et j'ai l'impression ce rythme et cette bonne surprise de proportion, en fait, servent pour une expression qui est très explicite, c'est-à-dire une dictature, une représentation de dictature et aussi une histoire de monopolisation de richesse. Et troisième chose, cannibalisation, c'est-à-dire révolte japonaise, certes qui peut être traitée comme psychiatrique ou psychanalytique. Donc, ce sont des thèmes extrêmement forts vu le contexte de rapport de l'ONU sur 1% de population qui monopolise la richesse et 99% de population qui n'ont même pas moitié de richesse, etc. Et aussi les gilets jaunes qui sont de plus en plus violents et forts en France. Aussi, je trouve que c'est extrêmement sensible, c'est-à-dire c'est une exposition faite chez un collectionneur, François Pinault, qui fait partie de 1% de la population la plus riche du monde. Donc, en tant qu'artiste et aussi commissaire d'exposition de grande expérience, comment traitez-vous avec une délicatesse cette tension contextuelle, pas une beauté de style ?
Luc parlait de la beauté perverse de ces tableaux, qui, je pense, résume un peu. Mais ce qui me fascine chez Luc, c'est que c'est une question qu'il a depuis toujours. Et tout d'un coup, ça a une actualité féroce, mais parler du rapport de vrai ou de faux, c'est quelque chose qui l'a toujours complètement obsédé, la vérité de l'image. Aujourd'hui, on parle tout le temps des fake news je pense qu'il a vraiment quelque chose de visionnaire. Il parle fondamentalement de nos peurs, individuelles ou collectives, mais nos peurs sont en train d'arriver. En même temps, baser une politique sur la peur, on sait que ça renforce les extrêmes. Donc je trouve que ce qui est très beau dans ces tableaux, c'est qu'il donne à l'autre aussi la possibilité d'être lui-même acteur comme visiteur dans sa façon de regarder les tableaux, mais aussi de prendre en réalité que c'est important toute position individuelle. Et là, d'avoir choisi la Pelé comme titre, donc qui se réfère à Curcio Malaparte, qui a eu une histoire très ambiguë quant à sa propre position, nous renvoie d'entrée à quelle est notre position. Même si on est dans une période extrêmement trouble, il y a peu ou pas de réponse politique extrêmement saillante. Quant à François Pinault, son origine, elle est très modeste et c'est quelqu'un qui a quelque chose de très humaniste, disons. Il fait partie de cette population, mais en tout cas à travers l'art, il veut absolument donner aux autres quelque chose et l'art a été essentiel dans sa vie. Il souhaite que quelque chose de cet ordre-là se transmette auprès d'un public le plus large. Il est conscient que ces extrêmes, cette minorité qui le plus, c'est pas possible que ça continue de cette manière-là. Et on en est, enfin, je pense qu'on partage, nous sommes nombreux à partager cette question.
Et vous travaillez pour plusieurs expositions de la collection de François Pinault, et aussi cette fois-ci, en l'occurrence, vous travaillez avec l'artiste Luc Tumans. Donc, il y a ce fort message par une expression plastique très sophistiquée et montrée à Palazzo Grassi. Cette expression, vous pensez, c'est plutôt un message de la part de François Pinault ou bien de la part de l'artiste Luc Tumans et vous, Caroline Bourgeois.
C'est d'abord Luc. C'est d'abord toute exposition monographique. En tout cas, moi, j'essaie que ce soit le plus proche des choses essentielles de l'artiste. Et mon rôle est aussi celui de faciliter que ce soit possible. François Pinault, il nous a fait confiance. Il nous a demandé d'aller le plus loin possible. C'est quelqu'un qui est assez demandeur. Donc, il a suivi. Je lui ai montré l'évolution de ce qui serait l'accrochage. Mais il sait très bien les enjeux de la peinture de Luc. Et là, il y a une autre chose qu'il partage, et dont parle Luc dans tout le parcours également, ses tableaux, c'est la croyance en la peinture comme une chose absolument essentielle pour permettre d'être capable d'avoir une histoire, de récupérer notre histoire. On est dans une époque où l'histoire est constamment réécrite, et c'était déjà le cas. Enfin, on a tous vu des expositions sur des photos politiques où on enlevait des éléments et qui trahissait l'histoire. Une des grandes questions, c'est celle de la mémoire. De quoi se rappelle-t-on? Et comment on est manipulé par les informations ou les images qu'on peut voir? Et l'histoire de la peinture montre que c'est grâce à ces peintures qu'on peut aussi relire l'histoire de notre passé. Et sans histoire de notre passé, on n'a pas de futur, c'est sûr.
Quelles sont ses réactions?
À qui? Luc ou François Pinault? François Pinault, François Pinault, il est venu la semaine dernière. Il vient toujours voir l'exposition avant qu'elle ne soit complètement finie, enfin en cours de montage. On était très avancés, donc il l'a vu presque fini. Il a été complètement ébloui. Je veux dire, il nous a remerciés d'avoir fait cette exposition. Et même s'il savait tout ce qui est... Il a vu aussi le temps de travail qu'on y a passé. Enfin, je pense qu'on perçoit... On ne veut pas faire peser le temps de travail, mais je pense qu'on perçoit que tout a été vraiment réfléchi dans la manière de faire les dialogues entre les œuvres, sur le parcours, sur le rythme, et puis aussi le risque. Alors là, presque uniquement... Enfin, d'abord, la picturalité de Luc. On dit de lui que c'est monocorde. Et en fait, je trouve qu'on voit à quel point il y a des mix de couleurs quand on se rapproche des tableaux de manière absolument incroyable. Et cette tension entre des œuvres du début où la peinture est plus appliquée et cette liberté du futur. Et c'est ça qui est assez magique. Enfin, nous, on a eu une relation un peu magique à la fin avec l'exposition parce qu'elle nous surprend nous-mêmes. Et les tableaux de Luc ont cette espèce de puissance magique de vous parler, que vous lisiez les guides ou pas. Quelque chose se transmet. Et ça, c'est le moment où on ne peut plus parler, où la peinture va au-delà des mots. C'est ce en quoi je crois fondamentalement, quoi. Du coup, ça peut s'adresser à quelqu'un de n'importe quelle culture.
Maintenant, je rentre dans l'exposition en soi. Je trouve les tableaux sont mis en place sur deux côtés. Un côté, c'est un très grand plafond, et avec le plafond en sculpture du bois sous gesso doré, et quelque part avec des tableaux anciens issus de l'histoire de Palazzo Grassi après la Renaissance, etc. Donc c'est comme si cette gloire historique de ville regarde les problématiques soulevées par Luc.
Alors on a tenu compte de ça, et je dois dire que je suis de plus en plus, peut-être déformée par les lieux de Venise, mais je trouve que c'est de plus en plus intéressant de voir des expositions dans des contextes, au lieu d'être dans le White Cube, qui rend complètement froid et détaché. Et c'est une des choses qui nous a le plus surpris, c'est à quel point ça fonctionnait bien avec ce palazzo qui parle de l'histoire déchue d'une certaine Europe, de Venise. parce que c'était un des centres du monde et de l'échange, et qui parle aussi de l'histoire de l'art. Au début, tout début, on parlait de travailler beaucoup, beaucoup sur les peintures dites de lumière dans le travail de Luc, en écho à l'histoire de la Renaissance. Mais la question de la lumière, c'est aussi celle de l'angle. C'est dans quel angle on aborde un sujet, dans quel angle on découpe ou focus une image, puisque son travail part toujours de ces images trouvées ou cherchées. De la même manière, s'il a fait dans cette exposition du baroque, donc avec le Caravage était quelqu'un d'incroyablement également engagé, qui a pris des risques dans ses choix de représentation par rapport à sa vie personnelle. Il est allé jusqu'à tuer quelqu'un, bon, pas Luc, mais je veux dire, et le rapport au temps dans le travail de Luc est d'une très grande importance. Il pense que sa responsabilité en faisant des tableaux, c'est aussi de voir comment ils pourront toujours être pertinents dans 50 ans ou dans 100 ans. C'était une des questions même au tout début de son travail, puisqu'il avait à dessin, il y a une seule œuvre de cette période qui s'appelle Body, 1990, où il a vieilli à dessin le tableau pour signifier que il faut que ça rentre dans le temps. Et ça, c'est une des gageurs les plus folles.
Donc c'est un double dialogue. À la fois, c'est un dialogue d'un côté Luc avec votre concours en face de 1% de population la plus riche du monde. Et deuxième dialogue, c'est le travail contemporain de Luc avec quelques références de l'histoire de l'art comme Gauguin et par rapport à chute de Venise et l'histoire d'art européen.
Tout à fait. Enfin, lui vient de cet art européen, il vit toujours à Anvers dont il vient. Pardon, c'est là qu'il a vu le Caravage. Il y a un autre tableau, Brocart, qui est pris d'un tableau de Van Eyck, où il a focusé sur un détail. Donc il y a plein de petits échos sur l'histoire de l'art. Il vient de Belgique, donc il y a aussi cette lumière du Nord qui est beaucoup plus présente par rapport à les peintres italiens qui ont une lumière beaucoup plus chaude. Lui, c'est une lumière froide. Et il y a quelque chose de silencieux, je trouve aussi, qui fait, là on parle de plein de sens, mais il y a un certain silence, une certaine paix, malgré la dureté des contenus. Il est très conscient, pardon, de toutes ces questions où les extrêmes apparaissent face aux extrêmes du contexte pour les populations. Vous parliez des gilets jaunes. Il y a quelque chose qui craque dans le fait qu'il n'y ait que 1% de la population. Et tout ça est traduit, donc des choses qui sont très immédiates, mais qui ne sont pas montrées de manière démonstrative ou simplement dénonciatrice. Elles apparaissent.
Vous avez un parcours très riche. Vous avez travaillé chez un un des plus grands marchands parisiens d'art en tant que directrice associée. Et maintenant, vous travaillez pour un des plus grands collectionneurs du monde et vous êtes commissaire d'exposition. Donc, avec tous ces parcours dans différentes positions d'écosystème de l'art, aujourd'hui, quelle est une bonne exposition? Comment définir une exposition de valeur?
Bon, j'ai aussi travaillé pour le métro, j'ai aussi travaillé pour un centre d'art alternatif. Mais enfin, bon, d'abord, c'est une question difficile. Vous pourrez faire un montage après. Ouais. Alors, en tout cas, une exposition qui fonctionne, il y a toujours quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il faut savoir, c'est pas une chose appliquée. Il faut prendre le risque de l'enjeu artistique. Moi, je crois en l'art. J'ai toujours cru en l'art et c'est ça m'est nécessaire dans la vie. Je peux pas vivre sans. C'est assez rare, je trouve, d'arriver à faire que quelque chose dépasse ce qu'on voulait. Je pense qu'il y a une énorme responsabilité quand on fait une exposition monographique. Dans mon expérience, la meilleure manière de faire, c'est d'être très ensemble avec l'artiste, parce que quand même, il connaît bien son travail. Il y a des artistes qui savent accrocher d'autres pas. Luc fait partie des gens qui savent accrocher. Il est également curateur. C'est une toute autre question sur une exposition thématique. Je trouve que la dernière que j'ai vue qui était vraiment fantastique, c'est l'exposition de Lynn Cook qui s'appelle Outliner, qui vous permet de dire d'une autre façon ce qu'on connaît. Luc, il permet de dire d'une autre façon ce qu'on croit connaître ou qu'on a oublié. Et il permet de voir une autre manière de peindre. Enfin, il ne s'agit pas de faire nouveau, mais de déplacer la façon dont on peut regarder. Donc, il y a le regard, il y a l'émotion et il y a la pensée. Et ça, je trouve que c'est très rare qu'il y ait tous ces éléments dans un seul travail.
En fait, vous parlez de la déformation, détournement, d'une variation dans la création plastique. À 19e siècle, à Londres, il y a Goodhue's Gallery. En fait, c'est à partir d'un grand collectionneur qui fait une fortune avec coton, textile, etc. Et ça devient après, dans le 20e siècle, il est devenu un des plus grands, importantes institutions européennes pour l'art. Et maintenant, avec votre concours qui aide à mieux à gérer la collection de François Pinault, avec cette idée de déformer, détournement, changement de style dans la peinture, est-ce que ça peut être transposé sur la gestion de patrimoine de collection pour que ce soit encore mieux que Goodhue's Gallery demain?
Alors ça, ce sera probablement aux autres et aux gens de demain de le dire. En tout cas, la qualité chez François Pinault, qui est certaine, c'est qu'il adore l'art, qu'il vit avec l'art partout où il est, chez lui, etc. On est souvent allé dans l'atelier de Luc. C'est pas une manière de collectionner. C'est proche des artistes. On est proche des artistes de manière générale. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre des risques avec des beaucoup plus jeunes. Enfin, il ne va pas que sur les territoires connus. Et pour parler du terme de l'exposition, une exposition doit avoir un risque. On prend un risque dans la manière. Là, on n'a pas choisi de montrer que des tableaux déjà connus. On a choisi de montrer des choses en risque, puisque les plus récentes, et de faire cohabiter des choses pas du tout de manière traditionnelle. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Comme on prend des risques en se levant le matin, normalement, je pense que c'est du même ordre. Qu'on doit prendre des risques de manière civique, qu'on doit prendre des risques de manière individuelle. Si c'était un mot, ce serait ce risque-là. Parfois, c'est des risques plus théoriques, mais c'est plus rare. Faire quelque chose qui permet de donner un autre angle de vue sur ce qu'on, par rapport à tout ce qu'on subit tous les jours, que ce soit du côté des nouvelles ou des réseaux sociaux, ou de cette espèce de flux. Et ça, je pense que c'est la même question toujours. Enfin, j'imagine comment Courtauld voyait très bien des choses qui étaient probablement mal vues à l'époque, mais c'est le futur qu'il dit. Et dans le rapport au temps, il y a beaucoup de choses qui changent dans la manière dont on peut voir ce qui fait sens par rapport au temps. Il y a eu des périodes au 19e siècle en France, en tout cas, ça je connais un peu plus, où c'était vraiment la peinture académique et la plus sans aucun intérêt qui était promue. Il faut toujours se méfier de l'académisme et de se méfier de ce qu'on reconnaît. C'est plus intéressant de connaître ou de découvrir que de reconnaître.
En fait, dans l'histoire de l'art et l'histoire de collection des œuvres d'art, il y a toujours une question de valeur ajoutée. Et en fait, vous faites partie de profession de savant de valeur ajoutée dans ce métier. Alors, dans ce cas-là, quelle est la contribution du monde des savants de valeur ajoutée, surtout dans le domaine artistique, à cette évidente évolution de société?
Je réfléchis en même temps. Disons que moi, j'ai toujours pensé que pour accompagner un artiste, c'était important qu'il y ait un historien d'art, un curateur et au moins une institution ou un collectionneur qui commence à le soutenir. Donc, c'est un dialogue entre plusieurs savoirs. Et je pense pas qu'il y en ait un seul. Je connais des artistes qui ont vécu on a exposé par exemple récemment un artiste qui s'appelle Vincent Giquel à Rennes. Il a 40 ans, mais il a vécu avec rien pendant 40 ans. Ou Thomas Sauceago, qui a actuellement une exposition au musée d'art moderne de la ville. Quand on l'a connu, il était beaucoup plus. Donc c'est ça plus une persistance dans le projet, dans le temps. Je pense que ça, c'est aussi important. Je ne crois pas uniquement la théorie, je ne crois pas uniquement quelque chose de scientifique. Il y a quelque chose que, de nouveau, c'est aussi un risque. Mais je crois au projet, par contre. Un artiste qui a un vrai projet ou une vraie vision.
Merci, Caroline Bourgeois. Cet entretien me donne encore plus des intrigues et intérêts pour connaître avec plus grand dimension de votre travail.
Merci à vous.
RFI, Radio France International.